Nous sommes en ligne avec Laurence. Bonsoir, ma chère Laurence. Comment allez-vous ?
Bonsoir à tous. Ça va. Il est un peu tard, mais ça va.
Eh bien, c'est-à-dire, on vous a pris trop tard ?
Non, parce que c'est vrai que je travaille demain, donc mais ça va aller.
Mais si vous n'êtes pas contente, on ne vous prend pas du tout, hein ?
Oh non, pas du tout.
Ah bon, d'accord.
Non. Excusez-moi.
Alors, je vous passe le club de la terrasse.
Merci. Bonsoir.
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 Bonsoir, Laurence.
Comment allez-vous ?
Mais ça va.
Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre présence ce soir ?
En fait, j'ai appelé tout à l'heure en fin d'après-midi parce que étant dans ma voiture, parce que je suis infirmière libérale, je prends de temps en temps les émissions en cours et il y avait une émission où on parlait des enfants transgenres et leur relation avec les parents, leur relation avec le monde médical qui les aide à passer à ce cap de la transidentité. Et pour la énième fois, ça m'a un peu mise en colère parce que c'est un peu un ras-le-bol. Moi, j'ai un fils qui s'appelle Karl, qui a 24 ans bientôt, et pour qui tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, tout se passe bien. Et moi, c'était le message que je voulais faire passer ce soir, c'est que c'est pas souvent ce qu'on me renvoie. Mon fils n'est pas lunaire, mon fils n'est pas un malade mental. Qu'est-ce que j'ai encore entendu ?
Bien sûr.
Enfin, voilà. Donc, je vais dire qu'on est un pays quand même formidable. Que ce soit, et c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, que ce soit le monde médical qui l'a soutenu, qui l'a accompagné, que ce soit la mairie de ma commune qui s'est chargée de l'aider à faire ses papiers où il a changé son prénom, que ce soit le tribunal, parce qu'en France, on passe par un tribunal aussi pour changer son identité. Tout le monde a été bienveillant. Que ce soit les interventions qu'il a subies pour l'aider aussi dans sa transition, je n'ai jamais rencontré d'obstacles, de méchanceté, de regard douteux. Non, moi franchement, c'est plus dans le regard des autres, dans les non-dits, dans les fois d'ailleurs, les choses que j'entends derrière les portes. Des gens qui m'entourent ou des gens qui ne connaissent pas, en fait, voilà.
C'est ça.
Que vient le problème.
Absolument.
Mais sinon, moi, j'ai mon fils, Karl, qui a maintenant 24 ans, qui est épanoui, qui a une vie amoureuse, qui travaille et qui vit très bien dans la société. Et souvent, j'en parle avec lui, il fait bien marrer. Ce sont les personnes qui, devant lui, se mettent à parler du transgenrisme, des propos parfois très durs. Alors lui, à l'intérieur, ça le fait mourir de rire, parce qu'il s'est dit, mais mon gars, si tu savais qui tu as en face de toi, et en fait, t'es même pas... Enfin voilà, c'est risible.
En tout cas, Laurent, ce que vous dites, que votre fils a eu un parcours de transition... avec de la bienveillance et je ne sais pas si facilité c'est le mot, mais en tout cas de la bienveillance, ça peut donner beaucoup d'espoir à beaucoup de jeunes ou de personnes de tout âge.
Mais
parce qu'on entend souvent plus que le parcours a l'air compliqué.
Alors, est-ce que le fait... Je ne vais pas mettre en avant l'entourage de Karl, hein, mais sa famille, on a été là tout le temps. Tout le temps. Et on n'a jamais jugé, on n'a même pas cherché à comprendre, en fait. Ça a été Karl, voilà. Et je pense que ça aussi, c'est important. Et il y a aussi, non seulement l'entourage familial, mais l'entourage amical. En sachant que Karl a fréquenté une école privée de la maternelle jusqu'à la fin du collège. Où il a été, il a gardé des amis en fait, notamment un qui est très précieux à ses yeux. Il a donc connu en tant que à 3 ans et demi et qui continue à voir d'ailleurs, qui est maintenant étudiant sur Paris, mais qui continue à voir parce que nous on habite Toulouse et qui l'a accompagné notamment au tribunal, qui a été un témoin précieux et même les parents de ce copain. Enfin, d'ailleurs, copain meilleur ami, je peux dire, ont été bienveillants. Donc, ce que je veux dire dans mes propos, c'est que c'est vrai que Karl a eu cette chance d'avoir vraiment, voilà, tout cet entourage.
Je le dis pour nos auditeurs, ma chère Laurence, pour que les choses soient bien claires, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne comprennent toujours pas ce que c'est cette histoire. En une phrase, il faut bien comprendre que chez certains individus, le sexe anatomique et le sexe chromosomique ne coïncident pas. Et donc, j'ai déjà discuté avec des soi-disant philosophes, etc., qui ne comprenaient pas du tout ce que c'était qu'être transgenre et qui considéraient que c'était être, d'une certaine manière, et je ne dirais pas le nom de la personne en question, mais c'est un philosophe qui a pourtant pignon sur rue, il pensait que les transgenres, d'ailleurs c'est un mot que j'aime pas trop, c'était tellement laid et ça ne dit rien, étaient des travestis en fait. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est quand un homme, une femme, un être ne coïncide pas avec lui-même, en tout cas la sexualité qui a été programmée anatomiquement, qu'on lui a donnée à sa naissance, n'est pas celle pour laquelle il est fait au niveau chromosomique. Donc c'est vraiment un problème qui va au-delà et tant s'en faut d'un caprice, d'une envie et même d'un besoin. C'est ni une envie, ni un besoin, ni un caprice. C'est au-delà de ça. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, je voulais juste préciser ça.
De toute façon, Carl, très tôt, m'a expliqué, parce que bien sûr, moi aussi, j'ai eu un questionnement, et j'ai cru qu'il était homosexuel. Et en fait, très tôt, il m'a dit... Mais
ça n'a rien à voir.
Tu ne peux pas comprendre quand je vois une femme, bon, quand il a été en âge d'avoir des sentiments amoureux, etc. Il m'a dit, quand je vois une femme, je la vois comme papa te regarde. Et c'était troublant pour moi, parce que... Mais après, j'ai fini par, par comprendre tout à fait ce qu'il me disait. Et c'était tellement évident... En fait, ouais, depuis quand j'ai refait son parcours de vie, je me suis dit oui, c'est en fait c'était Carl depuis toujours. Quoi.
Bien sûr. Vous savez, moi c'est un monde que je connaissais pas très bien. C'est une expérience, l'expérience de la transition que je connaissais pas très bien. Et j'ai la chance de travailler avec une réalisatrice génialissime qui s'appelle Yolande Zoberman, qui j'assistais à l'un de ses tournages, qui filme pour son prochain film, qui filme des personnes ayant effectué une transition. Et donc j'ai passé beaucoup de temps avec des individus ayant effectué une transition. Et ce que ça m'a permis de réaliser, c'est que c'est un acte d'affirmation, mais absolument extraordinaire, d'avoir le courage de faire cette transition. Et ça, on ne le sait pas et on ne le dit pas assez souvent. C'est-à-dire que quand on a le courage de faire ce que votre fils a fait, c'est en soi quelque chose d'absolument extraordinaire et de magnifique, vraiment.
Maxime, vous aviez une question, je crois. Pardon, Raphaël. Il y a un auditeur qui voudrait intervenir.
Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Et bonsoir madame, et je salue également votre fils Carl, je ne sais pas s'il nous écoute.
Raphaël, vous pouvez revenir sur ce que vous disiez.
Je vais faire court. Je vous félicite déjà en tant que maman d'avoir agi comme il faut, c'est-à-dire ne pas rejeter, d'avoir compris qu'il avait une identité qui ne correspondait pas à son identité physique, parce que c'est ça la transidentité. C'est mettre d'accord le corps... Et avec le cerveau, donc je vous félicite vraiment, parce que malheureusement, c'est très loin d'être toujours le cas. Et puis je félicite également votre fils Carl, parce que ce sont des épreuves psychologiques et médicales qu'il a dû
subir. Et douloureuses.
Il a dû se battre pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui.
Ah oui, puis et douloureuse, je peux vous dire que la dernière étape qu'il a fait vraiment s'effondrer, ça a été la mastectomie, qui a été reportée d'un an, et où on est sorti de la consultation, donc on lui a annoncé que bon, il n'y avait pas d'accord médical, enfin ça avait, bon voilà, le dossier n'avait pas été accepté tout de suite par la sécurité sociale. Je rappelle quand même que voilà, on est un beau pays et que donc c'est ce que j'ai dit à Raphaël, Raphaël c'est mon autre fils, à Carl, quand on est sorti, je lui ai dit, écoute, c'est un an, c'est pas grave, regarde, c'est un an, ça va aller, on va te le faire. Et il m'a dit, j'en peux plus, c'est tellement pénible, c'est tellement douloureux, j'y arriverai pas. Et je lui ai dit, mais c'est rien un an. Et là vraiment, mais il s'effondrait devant moi, mais oh, c'était des sanglots, ça ne s'arrêtait pas. Il m'a dit, c'est tellement douloureux à l'intérieur. Et bon, ça y est, maintenant, la mastectomie est faite. On est en attente de l'hystérectomie qui va avoir lieu normalement au courant du printemps. Et il m'a dit, voilà, il ne reste plus que ça. Et, et, et c'est bon. Voilà.
Et l'hormonothérapie, la voix, la barbe, enfin tout ça, ça a bien fonctionné.
Tout. Alors l'hystérectomie, c'est ce que j'expliquais au journaliste, la personne bref, que j'avais eu au téléphone tout à l'heure, l'hystérectomie va permettre justement d'arrêter ou du moins d'alléger l'hormonothérapie. Parce que ça quand même.
Ah oui, d'accord, parce qu'il y a toujours une sécrétion d'hormones femelles. Et donc,
oui, alors il a des injections d'androtardil une fois par mois. Et il prend ce qu'on appelle de l'énantone afin d'arrêter les règles une fois par trimestre. Et le fait d'avoir
ces petites. Pour diminuer les hormones femelles, oui.
Voilà. Oui, il est barbu. Vraiment, je mets au défi quiconque de dire que. Un jour,
il devient l'homme qu'il aurait dû être à la naissance.
Ah, mais complètement.
C'est la nature qui s'est trompée, c'est pas lui qui est en errance.
C'est tout à fait ce qu'on m'a expliqué. Il avait 7 ans la première fois qu'on a rencontré un professeur formidable à Bordeaux. Un vieux monsieur, j'ai envie de dire d'ailleurs, qui s'était fait accorder, je pense, de par sa notoriété. Il était à la retraite, il s'était fait accorder une petite pièce.
Une petite dérogation pour continuer, oui.
Voilà. Et il s'intéressait à ses enfants. Et il acceptait de les accueillir. Ça a été le premier à mettre des mots et à dire à Karl qu'il n'était pas une erreur, que c'était juste la nature.
Alors, la même chose,
c'est une erreur du corps, mais le cerveau était pas.
Ouais.
Voilà, absolument. Absolument.
En fait, c'est une erreur chromosomique.
Alors, j'aurais voulu vous poser une question, parce que vous me dites que vous. Mais sans méchanceté aucune, pour comprendre. Hein. Vous nous expliquez que vous l'avez fait consulter, et bravo, à l'âge de 7 ans. J'aimerais avoir votre avis. J'ai le mien et je peux vous le livrer, mais c'est le vôtre en tant que maman qui a suivi tout ce parcours et qui a accompagné son fils. Que pensez-vous de ce qui se pratique aux États-Unis, c'est-à-dire les transitions avec les actes chirurgicaux qui vont avec, bien entendu, les transitions qui sont pratiquées vers l'âge de 10 ans. Est-ce que vous pensez ou non que c'est trop tôt
Alors, je vais me permettre de vous livrer l'avis de Karl. Pour qui, justement, à chaque fois, que ce soit 14 ans quand il a commencé à avoir les règles, que très compliqué.
Ça va être une catastrophe pour
ensuite, pour lui. Puis en plus, il a eu une forte poitrine, le pauvre, donc c'était. Et même sa sœur n'en avait pas, et lui en avait, je crois qu'il faisait du 90 C, enfin c'était une horreur. Bon, bref, donc on lui a. J'ai trouvé un système, ça c'était aux États-Unis. Ça s'appelle des bandeurs, en fait, pour mettre sur la poitrine, ça, comme une bande.
Ça compresse les seins, oui.
Voilà, tout à fait. Et bon, bref, pour revenir à votre question, il m'a dit, quand il a eu 19 ans, quelqu'un a pris contact avec lui pour savoir justement son parcours, etc. Et je lui ai dit, donc tu lui as dit, et cette personne avait 14 ou 15 ans. Et je lui ai dit, donc tu lui as expliqué qu'en France, on n'avait pas le droit avant 18 ans et que malheureusement, c'est long comme toi. Et il m'a répondu, pour faire court, maman, je peux te dire aujourd'hui que finalement, ce temps, c'est bien. Et c'était très bien que j'ai eu ce temps. Alors que pourtant, il a beaucoup pleuré. Hein, et qu'il m'a. Effectivement, combien de fois je
C'est comme si vous ou moi, on était dans le corps de quelqu'un de l'autre sexe. On ne se sentirait pas soi-même, c'est ni plus ni moins ça.
Hein. Mais finalement, à l'arrivée, vous voyez, il m'a dit. C'est très bien que j'ai eu ce temps d'avoir ces 18 ans pour avoir les hormones. Enfin, la dernière année, entre 16 et 18 ans, c'était très compliqué de lui dire « il faut attendre encore ». À chaque fois qu'il revenait de consultation, il s'effondrait. Hein. C'était « waouh ». Et
Alors,
la première injection qu'il a eue, ça a été…
Laurence, vous m'entendez ? C'est Marie-Caroline.
Oui, pardon.
Moi, j'aimerais beaucoup savoir… pourquoi ça a été bénéfique, mais avant ça, je voudrais qu'on revienne un peu sur la terrasse. On a toujours deux acolytes qui sont sur le toit, Victoire et Alexandre. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, on vous entend très bien.
Comment ça va sur la terrasse ?
Ça va. Il fait de plus en plus froid, en fait. Mais pas de souffrance.
Ouais,
hein,
ça vous a un petit peu endormi ?
Non, pas du tout. On écoute le témoignage de Laurence.
Impressionnant.
Une petite question ?
Je ne sais pas si Alexandre veut. Moi, je peux commencer, mais effectivement, je crois que ce que vous dites, Laurence, est extrêmement intéressant parce que dans la tête de beaucoup de gens encore, cette question de la transition est une sorte de caprice. Beaucoup de gens ne comprennent pas en fait quels sont les enjeux.
Il faut vraiment être face à l'enfant.
Oui, exactement. Et justement, moi, je trouve extrêmement intéressant la question des obstacles, les difficultés et les souffrances qui ont que votre fils a rencontrés. Et moi, j'aurais aimé savoir quels sont les obstacles juridiques, déjà, parce qu'on sait qu'il y a eu des avancées récentes sur la question notamment du changement de nom. Quels ont été les plus gros obstacles que vous avez pu rencontrer et que votre fils a rencontré surtout dans cette transition?
Médicaux, dans le sens où les délais. Mais encore une fois, je dis à l'arrivée, finalement, il m'a dit que, avec le recul, ils lui ont semblé nécessaires. Ce qui lui a été lourd, ce sont les rendez-vous chez le psychiatre. Ça, je sais qu'à chaque fois qu'il y allait, il était un peu malheureux quand même. C'était lourd, voilà. Et parfois, il en ressentait le besoin, mais parfois, il lui était imposé, de toute façon, ses visites. Donc,
Parce qu'il y a un suivi du psychiatre qui est obligatoire,
en fait,
c'est ça hein.
Voilà, en fait, à l'âge de 14 ans, on lui a proposé d'intégrer à Toulouse une équipe pluridisciplinaire dévouée à ces personnes. Et donc, elles sont composées d'un endocrinologue, d'un psychiatre, d'une psychologue, d'un avocat et d'un chirurgien. Voilà. Et ils se réunissent régulièrement. Donc Raphaël a principalement rencontré le psychiatre dans les premiers temps, forcément, le psychiatre et l'endocrinologue. La psychologue était plus souvent là quand le psychiatre, par exemple, n'était pas libre. Voilà. Et après, quand il a eu 17 ans, il a commencé à rencontrer le chirurgien en vue justement de sa mastectomie. Et voilà. Et tout ça, ça s'est fait régulièrement. Après l'étape juridique, quand il a eu 18 ans et que là, il a eu ses papiers. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que la première chose qu'il a eue, c'est la carte vitale à son nom. Et après, ça s'est fait très, très rapidement.
Vraiment. Ça a changé quelque chose pour lui de voir.
Franchement, je n'ai rien à reprocher. Le tribunal, c'est un peu lourd. Mais encore une fois, ça a été quand même des personnes bienveillantes. Et le juge a écouté ce que Karl avait à dire, ce que nous avions à dire, puisqu'on a été accueillis. Il y avait sa sœur, son autre frère, son ami. Il y avait moi, il y avait des témoignages de personnes de l'entourage. Donc il y avait un juge et puis un avocat, je ne sais pas vraiment comment on les appelle, je ne vous cache pas que... Et c'était assez informel, hein. C'était dans une pièce. Et en fait, rapidement, donc, il a écouté ce que chacun avait à dire, il a surtout écouté Karl. Moi, ça, ce qui m'a fait mal, c'est d'être obligée d'apporter des témoignages. Mais bon, après, ça a été sans plus. Et très rapidement, le juge nous a dit, même avant de sortir, hein, il a serré la main de Karl et il lui a dit écoutez, je vous souhaite bonne chance, bonne continuation et félicitations. Voilà. Et l'avocat général qui était à côté, qui était une femme, a aussi félicité tout le parcours.
Qu'est-ce qui, selon vous,
à partir de là, je suis allée. Et bien, à partir de là, on prend sur Internet. J'ai tout fait les changements de diplôme, donc baccalauréat, permis de conduire, et tout a été très rapide. Vraiment, de ce côté-là, je rencontre aucun obstacle.
Mais de la prise en charge de A à Z, c'est-à-dire de l'enfance avec le psy, etc. jusqu'aux documents administratifs, la mastectomie, l'hystérectomie, enfin tout le parcours. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être amélioré, facilité, les points où il faudrait peut-être, avoir une surveillance peut-être un peu plus grande ou accéder au contraire plus vite. Enfin, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être mieux encore?
Rassurer. Enfin, on ne nous a pas assez rassurés.
D'accord, pas expliqué tout le parcours. Oui, on ne vous a pas expliqué tout le parcours. La prochaine étape, voilà, c'est ça. Voilà comment ça va se passer.
Vous connaissez, voilà.
Alors, Max. Oui, pardon. Pardon, Laurence. Maxime et. Justement, Laurence, les Victoire et Alexandre qui sont sur la terrasse voudraient vous dire quelque chose.
Musique!
Ils ont tellement crié fort dans le micro sur la table, alors je leur ai demandé de s'éloigner du micro pour crier. Hein. Ils ont crié dans le micro, ce qui a fait exploser les enceintes ici, et donc du coup le disque est un peu nasillard. On va vérifier, on va faire réparer ça, j'appuie sur 2-3 boutons. Et essayez Mathieu avec Daisy Temple pour voir. si ça le fait aussi. Parce que là, ils ont tellement hurlé, j'ai l'impression qu'on a déréglé quelque chose. On va voir. Bon bah c'est réparé, très bien. Alors, Laurence. Laurence, vous êtes toujours là ? Ma chère Laurence, êtes-vous toujours là ? Bon, Laurence n'est plus là. Nous allons, en attendant que Laurence... Ah Laurence, vous êtes là, ne quittez pas Laurence. C'est l'heure d'écouter une chronique de nos jeunes terrassiens. Merci Yann d'avoir accompagné nos terrassiens sur la terrasse. Raphaël, vous vouliez nous lire un poème, je crois.
Alors, c'est un nouvel poème que j'ai écrit.
Attendez, on va vous envoyer du Francis Lay. Dès que Mathieu est prêt, on envoie le poème. C'est bon, allez-y.
Il y a quelques mois, j'ai mangé à Istanbul un sandwich aux sardines, près du port, en bas du quartier de Galata. Il a dû se passer quelque chose d'étrange, puisque je ne m'en souviens plus du tout. Ça m'arrive souvent, lorsqu'il se passe des choses étranges ou belles. Surtout quand ces choses sont belles, j'oublie. Parfois, j'écris des notes, car je sais être sur le point d'oublier. Je place les notes dans mes portefeuilles, dans mes pantalons, dans mes poches et mes vestes, puis je les perds. Tout, les notes, les vestes, les portefeuilles et les pantalons. Alors ces souvenirs disparaissent tout à fait. Il a dû se passer quelque chose de grave à Istanbul, parce que mon amnésie s'étend sur une période longue. Je me souviens de ce sandwich, plus tard, d'être sorti du bus dans un petit village d'Anatolie, puis plus rien. L'autre jour, en tâtant le fond de ma poche, j'ai trouvé un petit bout d'écaille. Et par une association mystérieuse, je me suis soudain souvenu du sandwich à la sardine. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai trouvé dans un cardigan le poème qui suit. Je ne peux me décider à savoir si c'est un poème imaginé ou si c'est là ce qui m'est réellement arrivé. Ce poème s'intitule « La canne à pêche ». Je n'ai jamais pêché qu'une fois. Il faisait beau à Istanbul et un Kurde dansait comme un roi. Autour de lui, il y avait foule. Quand je sentis une odeur malsaine, heureux, les pieds dans le Bosphore, je perçus de ma canne la mort et vite à son bout une sirène.
Merci beaucoup Raphaël. Victor, vous avez préparé quelque chose ? On va changer de Francis Lay, bien sûr. C'est parti.
Sur l'or combustible, avant les mers et les vents, à ma droite, à ma gauche, qui n'était pas encore, mes têtes en puissance germaient de cuivre et les claironnés volèrent. Mais il fallut une oreille pour les entendre, et me voici devant moi, la bête. Le son se recevait dans des trombes creusantes, et me voici devant mes plaies, la lumière. Sous ces couleurs impénétrables, et l'œil vit, et me voici devant mon couteau, mon regard, dans le miroir au coin de la rue, devant l'assassin, mon double. Ô toi que j'aime seul, au nom de qui seul j'aime ce que j'aime. Tu m'as dit l'acier de tes yeux dans les miens morts, moi-même, ô ma peau moulée dans ce trou, dans ce noir, moi-même, ô toi à l'envers noir de ma peau, je te veux tout, car tu manques seul à ma plénitude, je te veux tout, car on t'a coupé de moi. Tu es dans un trou, tu es mon vertige, comme je suis ton eau noire, toujours sous tes talons. La chute, René Dommal.
Un des membres du Grand Jeu, avec Roger Gilbert Lecomte, entre autres. Marie-Caroline, un nouveau Francis Lay, mon cher Mathieu.
Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leur propre force. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient. Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent changer le monde s'emparent avant tout des fusils. Elles disent qu'elles partent de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence. C'est un extrait de Les Guerrières de Monique Wittig.
Mathieu, vous nous mettez un autre Francis Lay pour Alexandre ? Merci.
Je lis à travers ton front jaune et ridé. Les rires, les éclats, les lumières du passé dansent. Tu es saoul. Autrefois, les boulevards étaient gais. C'était un bal auquel ta vie était liée. Maintenant, c'est un cimetière. On enterre les souvenirs, ton passé. Une à une, tes dents sont tombées. Et tu peux encore sourire sans pleurer. La coupe où tu baignais le bout de tes doigts s'est brisée et tu y penses. Le soir où tu es revenu pour la première fois et qu'il n'y avait plus personne. Dans la rue, les lumières s'éteignaient. On avait fermé les portes et tu étais triste. Les jours passés, les yeux mouillés reviennent et défilent. Maintenant, c'est le temps qui ferme sa porte. Et c'est là que tu dois rester, sans rien voir, attendant qu'on t'emporte. C'était le dernier recueil de Pierre Reverdy. Un de mes poètes préférés.
Venez vous confier à Yann Moix sur Europe 1.
Ça grogne près de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Je sais pourquoi, moi.
Ça trépigne à côté de Flins.
Je sais pourquoi, moi.
Ça s'énerve à Paris-Masséna et Auteuil.
Ce sont les soldes à Euromarché.
Les soldes à Euromarché ne durent que jusqu'au 26 février. Alors tout le monde veut y aller.
Pour profiter des prix sur des jupes, des pulls, des manteaux, des robes, des pantalons.
À pied, à cheval, en voiture, les soldes d'Euromarché, dépêchez-vous d'en profiter.
Euromarché, une nouvelle race de magasin.
Je sais pas ce qui se passe en régie, mais ils sont ivres morts. Je voudrais que vous envoyiez, mon cher Mathieu, un jingle 70s. C'est possible ? Alors, on attend. Alors, j'attends un jingle 70s, sinon je vais pas me sentir bien. On va pas pouvoir... Ouais, on plus fort, on a mal entendu. Là, d'accord. Laurence. Laurence ?
Oui, oui, bonsoir.
Bonsoir. Eh bien, nous sommes toujours avec vous, avec Maxime et avec nos amis des terrasses. Bonsoir Yann, je viens de commander le dictionnaire amoureux du mauvais goût. On doit y trouver de belles pépites. Brigitte, oui. Le cœur des connasses, publicité hystérique avec cette terrasse. Akia, émission nulle, N-U-L, anonyme, évidemment. C'est à vous. C'est à vous. Bon, bah, alors, c'est pas à eux. Si, alors, si. Puisque personne ne veut parler, Laurence, je vous écoute.
Oui, je pense que je vais vous laisser tranquille parce que je n'ai plus grand-chose à vous expliquer.
Très bien.
Voilà, encore une fois, tout va pour le meilleur du monde. Moi, pour mon fils, c'est ce qui compte. Juste, c'est vrai, j'ai oublié de parler un petit peu de l'école.
Oui,
mais,
c'est important.
Oui, le lycée, ça a été un peu compliqué. Surtout qu'en fait, on m'a fait comprendre à la fin du collège, puisqu'elle était en établissement privé catholique. Je n'ai rien contre ce système, mais m'a fait comprendre, alors que ma fille aînée, elle, est allée jusqu'au lycée dans ce même établissement, à la fin du collège, on m'a fait comprendre que Karl n'était plus bienvenu.
Vous savez,
il allait voir sous d'autres auspices son avenir.
Deux choses. D'abord, dans 25 ans, j'espère avant, peut-être dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être qu'on regardera la situation d'aujourd'hui comme si elle était médiévale, c'est la première chose. Et la deuxième, je trouve que votre témoignage est très important. C'est des témoignages comme le vôtre, si empreints d'humanité, d'humilité, et je trouve aussi de courage, qui permettent à la société d'avancer. Un témoignage comme le vôtre, plus un autre, etc., etc., sont des choses qui permettent en fait à ceux qui assure une sorte d'arrière-garde qu'on peut bien comprendre, parce que chacun dépend du milieu dans lequel il a été élevé, dans lequel il a évolué. Un milieu social, un milieu culturel, mais aussi un milieu temporel. L'époque, on vient tous non pas simplement d'une terre, mais d'une époque. Et c'est difficile de penser contre soi-même. Et beaucoup de gens qui nous écoutent doivent trouver en ce moment que votre témoignage est important. En tout cas, moi, je trouve qu'il est important. Et vous savez, c'est ce genre de témoignage qu'un jour, on utilisera peut-être en archive dans 30 ans ou dans 50 ans pour dire, voilà, il y a encore 30 ans, voilà les soucis que pouvait rencontrer une personne qui a décidé de devenir elle-même. Et j'aime beaucoup aussi l'optimisme de votre témoignage. Et j'étais vraiment ravi de vous entendre deviser avec nos amis du Club de la Terrasse.
Je vous remercie. Et puis, je voulais juste remercier mon fils parce qu'il nous a aidé aussi à grandir avec lui.
Salut, Karl.
Et à m'ouvrir aux autres parce que je pense que je n'étais pas si ouverte que ça. Et il m'a fait me révéler.
Vous-même, vous voyez, mais non, mais c'est normal.
Oui.
Il vous a permis de lui, il est devenu lui-même, il a traversé quelque chose, il a changé de rive pour retrouver la sienne. Et vous, d'une certaine manière, il vous a forcé à penser, à changer d'époque, à penser contre vous-même.
Et... Ah mais oui, de toute façon, J'ai décidé de monter dans sa barque et puis on est parti, voilà, on a vogué tous les deux. Il m'a montré, quand ça n'allait pas, c'est moi qui pagayais. Et quand c'est lui qui n'arrivait plus à avancer, ben, je soufflais dans la voile.
Voilà. Et on voit finalement que vous n'avez absolument rien perdu. Vous avez au contraire été enrichi par cette expérience. Et finalement, je vais vous dire une chose, Laurence. Vous avez aujourd'hui l'enfant que vous auriez dû avoir.
Ah mais il m'a toujours dit tu n'as pas perdu Victoire, je suis toujours ton enfant et
non mais voilà. Je vais plus loin. C'est pas qu'il est toujours votre enfant, c'est que maintenant il est vraiment votre enfant.
Oui.
C'est plutôt vrai. Ça. Avant il ne l'était pas totalement, il l'est enfin. Oui, il s'est mis lui-même, en fait, il s'est accompli d'une certaine manière qui fait que il vous a aidé. À le faire naître. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah ben je vais vous laisser tranquille aussi.
Ils ne veulent pas parler de toute façon.
J'ai juste une image qui m'a un peu bouleversée. Quand il a fait sa mastectomie et qu'on est monté en unité d'hospitalisation, le chirurgien de Toulouse qui a quelques chambres qui lui sont réservées quand il fait ses interventions, parce qu'il est un des rares en France. En fait, on lui a cédé ses chambres en maternité.
Oui.
Et je vous assure que c'est vrai ce que je vous raconte.
Non, mais je ne prends pas les nos auditeurs pour des mythomanes, je vous rassure.
C'est la chambre 212, bref. Et j'avance, et devant cette chambre 212, il y avait un berceau vide. Et donc, je recule et je dis à l'infirmière qui nous accompagne, je dis, mais il y a une erreur, c'est une chambre pour une maman. Et alors elle se précipite, elle tire ce berceau qui était vide. Elle dit « Non, excusez-moi, on s'est trompé. » Et ça m'a vraiment bouleversée, parce que je me suis dit « mince, ça m'a... » Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je ne veux pas être maladroite. Je me suis demandé, on me redonne un enfant, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais c'est une image qui m'a perturbée, en tout cas.
Oui.
De voir ce berceau vide dans cette chambre où mon fils allait être pour subir cette mastectomie, qui était une grande étape dans sa transition.
C'était une naissance en deux temps, d'une certaine manière.
Voilà, vraiment, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Bon, évidemment, quand j'ai dit ça à Karl, n'importe quoi.
Oui, mais bon, ça vous regarde en tant que mère, et vous avez aussi des droits, vous avez aussi des choses que Karl ne peut pas comprendre, forcément. Vous avez aussi votre parcours qui ne peut pas être exactement le sien. Et je vais vous dire une chose... Ce qui est très important, et ça je sais que les auditeurs doivent le ressentir, c'est que vous avez l'air d'être une mère heureuse.
Oui, tant qu'il est heureux, je suis heureuse.
Voilà,
et j'ai peur des autres. J'ai pas peur de lui. J'ai peur des autres. Et ce qui me fait beaucoup de peine actuellement, et vraiment, je vous promets, je vous recule là-dessus.
Mais non, mais vous avez tout. On peut finir l'émission avec vous, il n'y a pas de problème.
Non,
surtout
que
nos amis de terrasse ne veulent plus parler, donc on est tous les deux là.
Ce sont les personnes qui actuellement tiennent le discours en disant « Ah là là, on en voit partout, comme par hasard, tout le monde est transgenre, ils sortent du bois. »
Non mais ça c'est Disney Psy, mais c'est des haters. Il faut laisser, c'est des ineptes.
Non mais même, de toute façon, pourquoi ces enfants sortent du bois aussi? Parce qu'ils sont de mieux en mieux acceptés aussi dans la société.
D'abord,
et que,
il y a, pour, si vous voulez, un être n'évolue pas tout seul, il faut un contexte. Et à chaque fois qu'un cas se passe aussi bien que celui que vous nous décrivez, ça fait une sorte d'effet boule de neige dans la société et chacun peut éclore à sa propre sexualité sans s'occuper des médisances de ceux qui ont 14 trains de retard. Et l'idéal, si vous voulez, sur Terre, et on ne vient sur Terre que pour ça, c'est de trouver sa place. Trouver sa place. Ça a l'air simple à dire, mais réfléchissez bien à cette question, vous autres auditrices, auditeurs. Avez-vous vraiment trouvé votre place? Si on ne l'a pas trouvé à la virgule près, le petit delta qui nous sépare de l'anfractuosité qu'on doit occuper peut nous faire souffrir le martyr. Ça peut se jouer à 1 mm. Maxime, vous êtes toujours là, j'imagine.
Oui, mais beaucoup plus sobre et silencieux que d'habitude, parce que je trouve que ce témoignage est exemplaire. Je reprends un de vos cas favoris, exemplaire au carré. Mère et fils sont absolument exemplaires. Et quand je dis exemplaire, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est un excellent exemple pour tous ceux qui nous écoutent, y compris les transphobes, les homophobes, les xophobes. Je voudrais ajouter qu'il n'y en a pas plus qu'avant, on entend les mêmes conneries sur les homosexuels, simplement quand on a une existence, une vie, un mode de vie ou une identité, peu importe, qui est en marge, forcément selon le poids sociétal, on le montre ou on le cache. C'est la seule différence. Il n'y a pas plus d'homosexuels.
Ce qui est toujours fascinant, Maxime. C'est les gens qui sont hostiles à des situations qui ne leur enlèvent rien personnellement. Fascinant chez l'être humain, c'est-à-dire qu'il se dresse, il s'offense face à des cas de figure qui ne changent en rien sa situation personnelle. Bon, comme il reste 3 minutes, je vais quand même redonner la parole à nos amis, parce qu'ils n'en voulaient pas il y a 7 minutes, mais peut-être qu'ils sont sortis de leur torpeur.
Non, on écoutait, parce que c'est des témoignages qui sont importants et fascinants. Moi, ce à quoi je pense en vous écoutant, c'est à tous ceux qui sont sceptiques ou qui doutent encore ou qui ont, comme vous dites, des attitudes médiévales, des pensées médiévales à ce niveau-là, c'est qu'il ne peut pas y avoir de théorie. Il faut se confronter à cette réalité, rencontrer des personnes qui sont trans, qui ont fait des transitions, et vous réaliserez aussitôt que c'est une réalité absolue. Et je pense que c'est important d'écouter et de parler. Donc merci infiniment pour votre témoignage, Laurence.
Et d'ailleurs, mon cher Raphaël, j'en profite pour dire s'il y a des personnes qui sont concernées, qui ont effectué une opération, on est toujours heureux de les entendre. J'ai la chance d'en connaître quelques-uns et d'avoir vraiment pu vérifier, si besoin en était, à quel point ils s'accomplissent, ils sont heureux une fois qu'ils ont vraiment trouvé la sexualité qui était la leur. Et c'est vraiment des gens qui demandent rien d'autre que de vivre comme tout le monde, avec une sexualité qui coïncide avec ce qu'ils sont faits pour être depuis leur naissance.
Absolument, absolument.
Victor, un dernier mot, très très brièvement.
Non, merci.
Marie-Caroline. Non plus. Alexandre, vous avez l'air constipé, camarade. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, pas du tout. Et si je devais conclure par un mot, ce serait simplement merci. Merci pour ce témoignage.
Très beau.
Merci à tous. Et puis encore une fois, merci vraiment à notre société, malgré tout, parce que je vous dis, que ce soit la mairie de ma commune, enfin, j'ai déjà dit, mais vraiment, même ces personnes-là qui ont été sur notre chemin, ben je les remercie tous parce qu'ils ont contribué à l'épanouissement de Karl.
Moi, j'ai adoré ce témoignage, hein, je vous le dis franchement. J'ai passé du temps de l'autre côté de la ville parce que c'était nos amis du Club de la Terrasse ce soir et j'étais captivé par cette manière dont vous avez de dire et de décrire les choses et surtout par cette transformation psychique qu'il vous a fallu pour embrasser une situation qui n'était pas évidente. Quand on n'y est pas préparé, on n'est jamais préparé à ce genre de situation. Mais en fait, c'est ça le tort. Il faudrait considérer que ce genre d'exception est banal. Et une société qui évolue, une société qui change, est une société qui s'étonne de beaucoup de choses, mais pas de ce genre de fêtes, d'événements. Ça devrait être non événementiel. Le bonheur d'autrui devrait toujours être une bonne nouvelle. Et si c'est sur ce monumental cliché que je vous laisse, à force de clichés, on devient photographe, mais il y a certaines choses qui sont bonnes à dire sur l'antenne libre.
Merci Laurence.
Soyez heureux, choisissez votre sexe, choisissez votre vie, choisissez votre radio Europe 1, choisissez vos horaires, choisissez vos amis, car on peut mourir d'un cancer de la mauvaise compagnie. L'entourage peut être anxiogène, méfiez-vous des autres si les autres ne vous rendent pas heureux. Et il est 1h du matin sur Europe 1.